Bonjour, bienvenue sur Audio People, autre radio, autre culture. Nous étions partenaires des Audio Days de l'automne 2011 qui se sont tenus à Paris au studio Plus 30. Nous vous laissons aux soins de Klaus Blaskitz pour une conférence sur le thème de la Motown, de la cave de Détroit à Michael Jackson, King of Pop.
Bonjour, je m'appelle Klaus Blaskitz, je suis musicien notamment. Je fais aussi beaucoup de prises de son et je raconte des histoires assez souvent pour tout public, que ce soit des étudiants, des scolaires ou des collègues, entre guillemets. Aujourd'hui, le thème est vaste et normalement, je raconte aussi l'histoire, la sociologie et les lieux et toutes les implications. Là, je vais me limiter évidemment à ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est l'histoire des méthodes et des techniques et des technologies d'enregistrement. Et je le raconte aussi, évidemment, avec pas mal d'exemples, d'illustrations. Le sujet aujourd'hui, c'est Motown. Alors Motown, on peut penser, oui, effectivement, c'est un petit label américain, c'est de la soul. C'est intéressant, ça a plus ou moins disparu. Il y a quand même quelques artistes connus, mais si je vous dis que ça a commencé dans une cave à peine plus grande que le local ici, avec pratiquement la terre battue, et que ça se termine plus ou moins avec Michael Jackson, c'est-à-dire les plus grandes ventes de disques de tous les temps, là, ça commence à prendre un peu de dimension. Michael Jackson, mais vous allez voir, il y a des artistes aussi qui sont assez remarquables et qui me permettent de retracer un peu l'histoire, encore une fois, des techniques et technologies d'enregistrement. Alors, on retourne à la fin des années 50, quand on commence, notamment aux États-Unis, à enregistrer sur magnétophone, sur bande magnétique, même si on continue à graver directement. Sur vinyle, sur shellac, on grave les disques, on enregistre et on grave directement. Et ensuite, on fait master, contre-type, matrice et pressage. Donc là, ce qu'on va commencer à écouter, c'est ce que j'ai mis un petit peu en préambule, c'est vraiment le début. On enregistre en basse vitesse sur des Ampex, peut-être vous connaissez les Ampex série 200, en mono. Dans une cave, donc encore une fois, terre battue, il n'y a pas de chambre d'écho, comme les studios ont pu utiliser dans les années 70 et 80, c'est-à-dire des véritables chambres d'écho, ou 60 même. Là, il n'y a rien. La pièce d'à côté, c'est une réserve où on range les cartons avec des disques. Parce que Motown, Hitsville, USA, Motown, Motor Town, Détroit, Motor Town, parce que c'est la ville où on fabrique, enfin où il y a les usines automobiles, Motor Town. Et évidemment, la musique avec les ouvriers monte du sud des États-Unis, le blues, le rhythm and blues, le gospel, et ce qui va devenir la soul. Remarquable, je vais tout de suite passer à la musique, mais remarquable ce label, c'est le premier label de musique, de race music, ce qu'on appelait la race music à l'époque, créée, dirigée par un noir. Alors que à Memphis, par exemple, Stax, avec Otis Redding, Sam & Dave, tout ça, c'est un label blanc. C'est un label dirigé, créé par des blancs, qui aiment évidemment cette musique. Berry Gordy, patron, qui est pas moins patron, pas moins esclavagiste, je dirais, que les autres, crée donc un label avec une écurie d'artistes et un petit studio, donc c'est le sous-sol d'une boutique de vente de disques. Il va installer le studio, comme le faisaient les labels et les maisons de disques à l'époque, avec ingénieur du son, matériel pratiquement fabriqué sur place, musicien payé à la semaine, qui jouait et qui ne savait pas forcément pour quel artiste, et un staff de producteurs, de compositeurs, d'auteurs, d'arrangeurs, voilà. Alors, ce que vous allez entendre, c'est donc enregistré sur un Ampex série 200, en mono, en basse vitesse. La réverb que vous entendez, c'est une réverb à ressort, Donc ce que vous avez dans les amplis Fender, par exemple, ou sur les Orgamons. Junior Walker, qui est un saxophoniste-chanteur. Voilà ce qu'il fait à la toute fin des années 50. Alors, ce morceau-là est en fausse stéréo, je vais vous raconter. Alors, ça, c'est vraiment je vous disais fausse stéréo parce que c'est en fait un remix à partir du ping-pong qui avait été fait. Un magnéto, vous enregistrez la batterie, la basse, vous passez ça et vous demandez aux autres musiciens de faire le saxophone. Et donc, vous avez en fait sur deux magnétos. Vous vous débrouillez pour le mixage après, ce que les Beatles ont fait assez tôt. Ne pas oublier que si on a des 33 tours avec 12 morceaux, compatibles stéréo au stéréo à l'époque, le but, quand on enregistre des morceaux de 3 minutes, c'est de mettre ça sur un 45 tours pour que ça passe en radio ou dans les jukebox. Donc c'est mono. Les Beatles n'ont jamais fait de mixage avant Sgt Pepper, de vrai mixage stéréo. C'était la mono. Alors il y avait de quoi faire de la stéréo, la fausse stéréo. Voilà, 2 ans plus tard, ce que font nos gaillards à partir de Junior Walker and the All Stars, dans la même cave. Là, tout le monde est ensemble. C'est mixé quand c'est joué. Ça fait joli de dire Junior Walker et les All Stars. Mais en fait, c'est les musiciens maison qui jouent. Et ils vont inventer, à force de jouer pratiquement 24 heures sur 24, ils sont en studio 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures par jour à travailler. Et puis évidemment, comme ce sont des musiciens de jazz qui font de la soul, pour eux c'est du rock. Hein. Berry Gordy leur dit « faites du rock ». Ce qu'on entend là, c'est du rock. Pour nous, c'est de la soul. Mais eux, ce sont des musiciens de jazz, donc ils passent aussi leur nuit à jouer dans des clubs à Detroit. Et j'y viendrai, il y a une anecdote assez remarquable justement sur ces Funk Brothers, qui sont les musiciens. Vous avez peut-être entendu parler, ou vu, ou lu des choses à ce sujet. Il y a un film qui leur rend hommage, s'appelle In the Shadow of Motown. Alors, on va passer très vite sur Junior Walker, évidemment, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'artistes. Je ne pourrai pas tous les citer, ni vous en faire écouter, mais je suppose que vous les connaissez. On va aller un peu vite, déjà avec Four Tops. Alors, il y a pratiquement plus de survivants. Là, on est en pleine période où le son s'est forgé avec l'équipe de musiciens qui est vraiment au top, les techniciens qui ont trouvé la méthode avec le peu de moyens qu'ils ont à l'époque pour que ça sonne plus grand que nature. Encore une fois, c'est un tout petit local et la musique doit être grandiose. Il faut que quand les gens écoutent ça à la radio, ils se disent « ils sont riches, ils ont des colliers en or comme les gangstas ». Four Tops. C'est au même endroit. 45 mètres carrés. Qui aiment cette musique, s'intéressent, qui sont musiciens. On peut entendre James Jamerson à la basse, qui est un véritable génie. Il y a tout, on peut tout couper, écouter que... Reverb à ressort. Reverb à ressort, mais aussi écho à bande. Alors à cette époque-là, il y a 3 pistes. C'est un Ampex 380, une série 400. Donc il y a 3 pistes, on peut enregistrer en stéréo, avec tout le monde dans le studio, sauf les chanteurs. sauf éventuellement un overdub qu'on pourrait rajouter, des violons, des cordes comme on dit, mais c'est souvent que des violons, un tambourin, voire une deuxième voix. Mais bon, tout est fait, ça se fait dans la journée. Hein. Et on a 3, 4, 5 prises seulement pour la rythmique. Pendant que les chanteurs répètent dans la pièce d'à côté, sur la terre battue, les chorégraphies. Voilà, je vous mets juste un autre titre, Bernadette. Vous allez voir l'impression de sophistication, alors que c'est fait avec des moyens. Inutile de dire qu'il n'y a aucune retouche, il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de quantisation. Ils jouent vraiment ensemble et quand on écoute une journée de prise, on ne sait pas quelle prise choisir tellement c'est toujours bien. C'est assez incroyable. Bon, il faut dire que c'est le top. Les musiciens sont top avec Four Tops. Je n'ai pas fait tout à fait exprès. Four Tops, Temptation, je vais assez vite. Vous allez voir que le son passe de ce qu'on vient d'entendre, qui est le son Motown. Là, il y a une période, vous savez peut-être que bon, il fait froid l'hiver à Detroit. Il y avait souvent des émeutes raciales, notamment. Il y avait beaucoup de musiciens blancs et très peu d'artistes, de chanteurs blancs chez Motown, mais pas mal de musiciens blancs. Ceux qui ont vu le film, ils le racontent très bien. Pendant les émeutes, c'est les musiciens noirs qui protégeaient les musiciens blancs quand ils sortaient du studio pour éviter qu'ils se fassent attraper. Alors oui, j'étais en train de dire, il va y avoir un autre studio à Detroit, parce que là, c'est vraiment très petit. Donc un autre studio un peu plus loin, Main Street, plus grand, avec plus de moyens. Et Berry Gordy n'a qu'une envie, il fait froid, c'est une ville ouvrière. Il se dit, moi, je veux la Californie, donc il va déménager Motown. Les studios, l'administration et les musiciens qui veulent pour la Californie, pour Los Angeles. Et il se trouve que c'est en même temps, en pleine période, c'est donc 69, 70, on est en pleine période hippie, et donc il y a le tournant. Berry Gordy disait aux musiciens, aux arrangeurs, faites du rock, donc grand public. Alors on entend que c'est pas franchement du rock, mais et après il leur dit, faites du hippie. Et donc, les musiciens de Motown, et les artistes qui sont des musiciens de jazz, qui se sont déjà mis au rock, ça donne de la soul, vont passer au hippie, ça va donner, alors je vous fais écouter un peu avant cette révolution, quelque chose de miraculeux. Ça, on est encore à Detroit. Vous entendez le ressort ? Je suis bien placé parce que j'entends bien James Jamerson. Quand il fait une note, c'est incroyable. Alors, je vous recommande, c'est ton oreille un peu fine, de réécouter ça attentivement. Et vous verrez, il y a un micro sur la batterie. Alors, le micro, il n'est pas sur la grosse caisse ni en overhead. Il est devant le tom alto. Donc il prend bien toute la batterie, c'est impeccable, sauf quand il y a la reprise sur le tom alto. Donc ça fait tonch kata boum, qui est complètement dans le rouge. Et c'est parti, enfin c'est inhérent au son Motown. Tach taka du boum, ta tung tung. Voilà. Et c'est, on va faire un bond de 4 ans, ce qui est énorme à cette époque-là. Imaginez, regardez 4 ans, par exemple chez les Beatles. Entre 64 et 68, c'est énorme. Vous passez de la mono et des petites chansonnettes « She loves you » à « Sgt. Pepper ». Alors c'est un peu pareil pour Motown. Et là, on est à Los Angeles. Et vous allez voir, le son a changé, les arrangements ont changé, les compositions. On fume la moquette en écoutant, alors qu'avant, c'était pour danser uniquement. Bon, ça n'empêche pas de danser sur... En plus, on se fout du 45 tours. Maintenant, c'est la radio, donc on peut faire des morceaux de 7 minutes. Ça ne tient pas sur une phase de 45 tours. Mais on s'en fout. C'est pas ça qui est important. tout le monde aura reconnu, Papa Was a Rolling Stone. C'est une femme qui fait la basse. James Jamerson n'a pas voulu vraiment suivre. Il était à Los Angeles, mais il est tombé dans l'alcool très vite. Donc, Carole Kay, Wawa Watson, nouvelle équipe. Une vraie chambre d'écho. J'imagine que tout le monde a déjà entendu ça, Papa Was a Rolling Stone. À cette époque-là, ils font aussi Cloud Nine, comme son nom l'indique. Cloud, c'est de la fumée, hein. On est à Los Angeles. On a un micro sur la grosse caisse, ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a des effets sur la guitare qu'il n'y avait pas avant. Childhood part of my life wasn't very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. Et vous aurez remarqué, il n'y a plus de reverb, plus d'écho sur la voix. Donc on veut être beaucoup plus présent et on change le son. La reverb, c'est démodé. Alors ça va revenir après une obligation. Alors, il y a un petit jeune, parce que ça va m'amener à une révolution. Un petit jeune aveugle qui est censé avoir autant de talent, et je ne suis pas loin de le penser, que Ray Charles, Stevie Wonder, la petite merveille. Voilà ce qui. Alors il commence à 12 ans, donc c'était The Little Stevie Wonder, la merveille de 12 ans. À 15 ans, 15 ou 16 ans, il va faire ça. Alors pareil, moi j'écoute toujours et la prise de son et le jeu de basse. Là on est à Detroit. Encore une fois, pour ceux qui écoutent la partie de basse comme moi, vous verrez que le batteur, qui est un batteur de jazz, il entend, il y a tout le swing, tout le rebond, tout le son. Le batteur, le bassiste fait la caisse claire, la grosse caisse, il fait tout. Donc le batteur, il va se limiter à faire comme le tambourin. Sinon, ce serait un pléonasme que de faire le swing que fait le bassiste. Et là, aujourd'hui, on mettrait la batterie beaucoup plus forte qu'elle n'est mixée là, ça serait inutile. Alors, dans le mix, là, il y a trois guitaristes qui jouent des parties plus ou moins différentes. Ceux qui connaissent ou qui en ont entendu parler du Wall of Sound, le mur de son de Phil Spector, la méthode, c'est ça. C'est d'avoir une masse sonore en multipliant les instruments, les mêmes instruments. Donc il est arrivé aussi d'avoir une contrebasse à l'unisson avec la basse électrique, d'avoir deux batteurs, on le voit dans le film. Alors voilà, j'arrête aussi assez vite Stevie Wonder et on va venir à la révolution qu'il va apporter. Parce que le Berry Gordy est tellement tyrannique, parce qu'il impose, il y a même un comité d'écoute qui dit ce morceau-là est bien, cet artiste-là va chanter cette chanson-là. Non, ce morceau est refusé. Et Stevie Wonder commence, comme un autre que je vais évoquer, à composer lui-même. Mais les artistes ne sont pas censés composer. Il y a des compositeurs maison. Alors, vous n'allez pas fabriquer votre pain alors qu'il y a un boulanger qui est là pour ça. Mais non, moi je suis artiste, je vais composer. Alors, c'est déjà une composition de Stevie Wonder, donc ça fait moins de boulot pour les auteurs-compositeurs et les arrangeurs. Donc tout le monde se plaint et Berry Gordy met le holà. Alors je vais évoquer un personnage... C'est fondamental dans cette histoire, c'est Marvin Gaye. Marvin Gaye qui est batteur au départ, organiste, et puis qui est beau gosse, magnifique chanteur, et il fait tomber toutes les... Parce qu'il y a beaucoup de filles, on va en écouter, et notamment les secrétaires et les femmes des gens, et des gens de la Motown. Donc il va se faire sa place Motown, mais chez Motown. Mais Berry Gordy va lui dire « Non, non, toi, tu es un crooner, ça ne va pas du tout. Nous, on fait du rock. C'est du rock. On veut vendre au blanc, au noir, au jaune, au bleu. Toi, tu vas... Il n'y a pas de public pour ça. Oui, mais Berry, moi, je suis un vrai crooner. Je veux chanter. C'est Nat King Cole, ça m'intéresse. C'est Sam Cooke. Je veux faire de la soul, mais crooner. Et l'autre, il dit non, non, non. Tu vas retourner à faire de la batterie dans les clubs, ou tu vas chanter une octave au-dessus en forçant. Et donc, le pauvre Marvin Gaye, ça donne des résultats miraculeux parce que les musiciens sont excellents. Lui, c'est un quasi-génie. Alors, il a fait aussi des duos avec notamment Tammy Terrell, qui est morte à 19 ans ou 18 ans, qui était un gros choc pour lui. Et voilà ce que donnait le duo avec la voix forcée donc, de Marvin Gaye. Donc, on est retour à Motown, à Detroit, dans la cave. Voilà, ça, c'est du rock pour Berry Gordy. C'est magnifique, mais c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est plus grand que nature. C'est 50 mètres carrés. 4 violons dans la réverb, même pas doublé. Donc c'est ce jeu de superposition, de couchage, et surtout la réverb. Alors voilà, encore une fois, c'est un peu court. Donc je vais arriver très vite à la première révolution. J'ai évoqué Stevie Wonder, qui dit, écoute, ça c'est bien, je commence à vendre des disques. Est-ce que je peux composer, Monsieur Gordy, est-ce que je peux arranger, je peux faire un disque? Non, non, vous allez faire, tu fais où on te dit et ce qu'on te dit de faire. Alors il va tenir le choc jusqu'à un certain point. Et puis il va arrêter pendant 2 ans de faire des disques. Et il va profiter de l'occasion du changement de Détroit à Los Angeles. Et d'un seul coup, il y a les moyens. Il y a même du multicanal. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des 8 pistes en 68, 69, on va passer de 8 à 16 en 1970. Pas dans tous les studios, hein. Et qu'est-ce que va faire Stevie Wonder, comme d'autres que je vais évoquer? Il va dire, je fais ma musique. Puisque j'ai le multipiste, je vais tout faire moi-même. Ça va aller plus vite. Donc je vais faire la batterie, je vais l'enregistrer, je vais faire les claviers ou l'inverse. Je vais me faire la basse. Je vais faire un saxophone, je joue, je vais chanter, faire l'harmonica. Je vais inviter un copain qui joue de la trompette. Et voilà ce que ça donne. Donc la révolution, c'est on est en dehors des canons et de la prise de son, du mixage donc, de la composition, de l'arrangement. Et les musiciens, c'est plus du tout les musiciens de l'écurie, du studio. Il a fait ça pratiquement à la maison. Alors vous allez voir, il a inventé en quelque sorte un nouveau son, très sec. Il n'a pas de réverb peut-être, ou il n'en veut pas. Tout est sec, tout est enregistré un peu à l'arrache. D'ailleurs, peut-être que vous avez écouté, c'est disponible, je crois qu'on peut trouver ça sur Internet, les pistes séparées de ce qu'on va écouter. Et c'est loin d'être parfait, hein. Les gens ne sont pas en place, ça fait 3 fois qu'ils jouent la partie. Et l'ensemble, là, il fait donc il y a multipiste, il a 16 pistes et il va faire des prémix, mais il va faire une dizaine de parties de clavinette. Alors avec une compression beaucoup plus audible. Avant, on compressait pour pouvoir graver parce qu'il y avait trop de dynamique et à la prise et au mixage. Maintenant, on fait du son avec. Les Beatles ont commencé à le faire quelques années auparavant. Voilà ce que donne. Vous voyez, c'est très sec. C'est lui qui joue, hein. C'est un clavinette, ça. C'est presque étouffant, le son de batterie, mais ça swing tellement. Il est en train de jouer à côté de nous, dans le salon. Pas de réverb, pas d'écho. Les aigus ramassés sur la voix. Allez les copains, venez jouer. Sec. Proximité. Alors, ça évidemment, ça a fait une révolution. C'est ce qu'on appelait le gros son à l'époque. Et tout le monde se disait, mais comment il fait? Enfin, en fait, il utilisait des micros dynamiques. Plutôt que de mettre un C12, il chantait dans un SM58, Donc il n'y a pas d'aiguille, tout est un peu ramassé, c'est compressé par le micro, il n'y a pas de réverb. Bon, il dit, lui, qu'il avait décidé justement de changer par rapport au son Motown, d'éviter d'avoir cette grandiloquence, ces paillettes. Lui, il voulait le son funky, chaud, de proximité. Alors, je crois que c'est un mélange des deux. Je pense qu'il avait, il avait les moyens à sa disposition. Il avait surtout un multipiste. Et ça change tout. Parce que là, non seulement c'est lui qui fait toutes les parties, mais les gens ne jouent pas ensemble. Et ça s'entend un petit peu. Et alors, comme il a énormément de talent, ça tient la route. Mais d'autres, avec la même méthode, ont fait des choses qui sont inaudibles. Enfin, on entend, c'est très... on étouffe et on entend bien que les gens ne jouent pas ensemble, qu'ils ne s'écoutent pas. Alors, un petit retour pour se remettre à l'oreille le son grandiloquent, flashy, paillette, avec les Supremes. Il y a eu beaucoup de filles. Hein. Il y avait Martha and the Vandellas, il y avait Gladys Knight, on a vu Tammy Terrell. Voilà, les Supremes avec Diana Ross, qui a été la copine de tout le monde, un peu chez Motown, qui est une magnifique chanteuse, avec ses petites camarades qui font un peu de la figuration, mais qui sont très belles, en paillettes, avec des choucroutes blondes. Enfin, c'est magnifique. Hein, allez voir sur YouTube les Supremes, c'est avec les chorégraphies. Elles sont très belles, mais ça chante bien et ça swing. Alors voilà, à nouveau le son à l'ancienne. Ah, ça y va du potard, hein, panoramique. 50 mètres carrés. James Emerson. Anticipation. Alors, ce que vous entendez là, c'est une paire de chaussures. C'est un bruiteur sur une planche. Alors voilà, ça c'était à nouveau le son à l'ancienne. Supremes, on peut en écouter pendant des heures, enfin en tout cas moi. Alors, l'autre révolution, j'ai évoqué tout à l'heure la production, ce qu'on imposait à Marvin Gaye. C'est truffé d'anecdotes, l'aventure. Lui, il veut revenir, il veut composer, il veut écrire ses chansons, il veut revenir à son rôle de crooner. Il veut charmer les blondes et les autres. Berry Gordy lui dit non, tu vas faire du rock, c'est ça qui vend. Et puis tu ne vas pas casser le son, et ni les méthodes, ni les techniques. Motown, c'est comme ça et c'est tout. Et un jour, il va présenter un morceau au comité qui va accepter ou pas le morceau. Et il est refusé. Ce morceau, c'est What's Going On. Alors, on est en pleine période, il faut dire que, brièvement, mais on est en pleine période les droits civiques, les émeutes. Il va faire aussi une révolution à ce niveau-là. Il va composer, non seulement la forme va changer par rapport aux autres, aux morceaux, composé par l'équipe des compositeurs. La prise de son va changer parce que c'est lui qui va décider et qui va faire du multipiste. Mais surtout, le texte avant, ce sont des chansons d'amour. Oh, retiens-moi, oh, je t'aime, oh, mon amour, oh, il faut que tu reviennes, oh, il faut que je parte, voilà. Et là, lui, il parle, hey, les mamans, faites attention à vos enfants, il n'y a pas dans la rue, la violence n'est pas la solution, la guerre, pourquoi faire, etc. Et ça, c'est une révolution, lui. Berry Gordy, il dit, mais non, pas de politique, hein, chez nous. Hein. On veut vendre à la droite, à la gauche, aux jeunes, aux vieux, aux blancs et aux noirs. Si on commence à faire la révolution, là, on ne va plus vendre aux blancs. Et c'est refusé. C'est refusé, il va mettre 2 ans, non seulement à le faire accepter, il va perruquer en fait, il va le faire malgré l'interdiction de Berry Gordy. Donc il va enregistrer l'album What's Going On sur 2 ans de temps, avec des mixages qui ont duré aussi à peu près 1 an. Et finalement, ça va sortir contre l'avis de Berry Gordy et de ses équipes. Et ça va être la révolution au niveau de Motown, mais aussi au niveau de Marvin Gaye. Et évidemment, comme ça va être un succès énorme, Berry Gordy, qui pense d'abord dollars, vous savez, comme dans les dessins animés, dollars, il se dit, bon, bah, d'accord. Et puis, elle était poussée aussi par Diana Ross, voilà, qui était la maîtresse de Berry Gordy et évidemment de Marvin Gaye. Donc voilà, ça peut arranger les choses. Qui était très belle et néanmoins excellente chanteuse. Alors on va pas écouter le premier mastering parce que là c'est aussi une autre affaire. Hein. On pourrait en parler très longtemps. Comment on mixait et on masterisait pour graver. Donc on avait en tête. Bon, il y avait des courbes d'égalisation qui permettaient de remonter un peu les aigus, par exemple, qu'on perdait à la gravure et à la galvano après. Donc la courbe RIA que vous connaissez sans doute. Et quand on avait ces bandes master et qu'on devait les transférer ensuite sur CD, bah, on n'était pas toujours très adroit. Et bon, on verrait demain, on va écouter les premiers mastering Beatles qui ont été faits au Japon. C'est une catastrophe totale. En plus, c'est les fausses stéréos. Ça n'a pas été accepté du tout par les Beatles, enfin les survivants en tout cas. On pourrait se faire une séance, vous pourriez d'ailleurs vous le faire, c'est de prendre le premier mastering, la première édition en CD, et celle-ci, la Deluxe édition, remasterisée il y a quelques années. Et c'est un peu le jour et la nuit. On entend des choses qu'on n'entend pas dans la première. Et de plus, il y a des mixages alternatifs, il y a des prises, il y a du live, etc. Alors, autre anecdote, la séance, comme c'était une perruque, c'est-à-dire que c'était refusé, donc il prenait les moments dans le studio où il n'y avait pas de travail. Donc il disait à tout le monde, dites rien, on va faire les prises. Et là, c'était le matin. Et donc le James Jamerson et ses camarades, Pistol et les autres, les musiciens maison, ont joué la veille, toute la nuit. C'est-à-dire, il est rentré chez lui, James Jamerson, il avait joué, bu, il rentre chez lui, prend une douche, il boit un café, et il vient à la séance à 10h. Et il est tellement fatigué et tellement saoul encore, qu'il ne peut même pas tenir sur la chaise. Donc il va faire la partie de basse qu'on va entendre, allongé sur le sol, parce que c'est le seul moyen pour lui de tenir. Et tout le monde est très fatigué de la même manière. Voilà ce que ça donne. Donc, what's going on? 16 pistes avec des couchages. Ça, c'est une équipe de basketteurs qu'il a invité dans le studio. La balle de tennis qu'on entend, c'est Kunga. There's too many of you crying. Brother, brother, brother. C'est du pur génie. There's far too many of you dying. You know we've got to find. Marvin Gaye fait toutes les voix. To bring some loving here today. Father, father. Regardez où est placée la batterie. We don't need to dans le mix. Alors ce fameux son sur la voix. La réverb qui zingue un peu, c'est une réverb à plaque, mais une vraie. Donc c'est une EMT 140, donc c'est une tôle, c'est 300 kilos, c'est comme un trampoline. Hein. Donc le zzz qu'on entend, magique, en partant de la soul, en voulant faire du rock, des sous vendre à tout le monde, on touche au divin. Là. Enfin, alors il y a une autre révolution, alors, ça fait deux déjà. Chez Motown, mais on voit à quel point ça a pu influencer tout ce qu'on a pu faire depuis. Vous avez une petite équipe alors qui est menée, ce sont les enfants d'un garde-chiourme, de la même manière que Berry Gordy, c'est le père Jackson, bah, qui fait travailler ses enfants, comme ils sont tous très doués pour la musique. Et voilà, il va en mettre au moins 5 sur scène, dont un qui a 6 ans, qui s'appelle Michael Jackson. Avec le plus âgé, 14 ans. Et ça donne donc les Jackson 5. Alors, on va écouter un petit bout de Jackson 5 en 67. Donc, Michael Jackson doit avoir 8 ans, peut-être. Peut-être 10 au maximum. Là, pour la forme, ils ont changé totalement le son. C'est les musiciens, c'est censé être les petits jeunes qui jouent. Mais ils sont assez maladroits, et ils n'ont pas le son ni la maîtrise. Mais on change totalement le son, pas de réverb. Un autre morceau. l'a appris depuis, si tu ne donnes pas de toi aux répétitions, tu prends un coup de ceinture. Donc, Michael Jackson, il avait les fesses rouges à la fin des répétitions. Et pourtant, alors, il y a une période, alors c'est un succès énorme, il y a une période où le groupe va s'appeler The Jacksons. Alors là, ça va se passer à Los Angeles. Alors là, on est en pleine période Jacksons, complètement kitsch. La grande mode au début des années 70, c'est les productions à Los Angeles, grandiloquentes. C'est Earth, Wind and Fire, Gap Band, qui arrive un peu plus tard peut-être, Kool & The Gang, qui sont des musiciens de jazz au départ et qui font la même chose et qui font du glitter, de la soul glitter, soul paillette. Eh bien, ils se disent chez Motown, on va faire la même chose avec les Jacksons. Michael Jackson doit avoir 14 ans. Là. Le son, vous allez voir, c'est Los Angeles. Michael Jackson, 14 ans, il y a 15 choristes en plus, on a les moyens donc. Alors, écoutez l'éclatement de main, c'est une méthode que tout le monde a repris, ils n'ont pas inventé, mais vous voyez la vitre ici. Vous mettez un micro entre les claqueurs de main et la vitre, et vous avez un petit délai très brillant. Là, la chambre d'écho naturelle, elle fait quatre fois la taille du studio de l'époque de Detroit, le studio lui-même. Alors ça, c'est au début des années 70. Et après, il y a plus ou moins un retour des Jackson, parce qu'il faut bien vivre. Hein, donc tout le monde pousse, Berry Gordy, le père Jackson. Eux, ils sont en tournée, ils ont une émission de télé où ils sont plus ou moins en direct. Ils sont tous crevés. Ils tiennent jusqu'à un certain point et à un moment donné, ça explose. Et voilà la troisième révolution. C'est il y a un creux de 3 ans à la fin des années 70 où Jackson disparaissent et Michael Jackson ne fait rien. Sauf qu'il va rencontrer des gens à Los Angeles et notamment des arrangeurs. Un arrangeur quand même, qui va devenir producteur, qui est trompettiste de jazz, arrangeur de big band. Vous le connaissez ? Yes. Et puis, il y a un ingénieur du son qui a été formé, Bruce Sweden, qui a été formé à bonne école à Los Angeles. Donc, c'est vraiment, on a déjà deux éléments dans l'équipe. Et puis, on a Michael Jackson qui est maintenant adulte. Donc, il doit avoir 22, 23, 24 ans à la fin des années 70. Alors, ça commence par... Est-ce que je l'ai amené ? Ouais. Off the Wall. Alors, c'est peut-être le deuxième, mais tout le monde ne se souvient pas de ce disque-là. Vous allez reconnaître la patte des gens qu'on a cités et surtout la maturité du chanteur-danseur. Et on n'est plus du tout dans Motown. On a des sons synthétiques, éventuellement. Vous allez voir, quand la batterie va arriver, on n'est plus dans Motown du tout. In the face. Est-ce qu'il y a une bouteille de Coors, la bière ? Il n'y a pas une bouteille de... une canette de bière ? Enfin, pas une canette, une bouteille. Ben, c'est ce que vous entendez derrière, pourtant. Alors ça, c'est Off the Wall. C'est imaginé par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors lui, il a gardé l'idée de Berry Gordy. Il veut devenir the King of Pop. Donc il va se blanchir à tous les niveaux. Ce n'est pas forcément la meilleure chose qu'il a fait. Mais comme il est génial, on a une musique qui n'est plus typée, qui est vraiment à tendance universelle. Ça swing, ça groove, il y a un gros son. Et ça passe sur toutes les radios et dans toutes les oreilles, à la fois. Parce que c'est des chansons, c'est moderne, il y a des gimmicks. Donc cette idée, c'est d'arriver avec ces contraintes commerciales à faire un objet sonore qui est alors beau, qui est en tout cas agréable et tout à fait digne. Alors, évidemment, je passe un peu vite, quelques années après, avec les mêmes... Vous allez voir l'évolution, les boîtes à rythme, les ordinateurs, les échantillons sont arrivés. Et voilà ce que ça donne. Ça se construit. Évidemment, tout le monde connaît ça. Avec une grande première, c'est l'époque des clips vidéo qui accompagnent, puisqu'il y a une nouvelle chaîne de télévision, c'est MTV. Là, on ne fait pas une vidéo sur le morceau, on fait un film. Et c'est un metteur en scène de cinéma qui fait le clip. Thriller. Bon, pareil, hein, je ne veux pas vous le faire réécouter. Il y a ça. Hein. Beat it. On est loin de Motown. Hein. Vous allez voir, guitare hard, Van Halen. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est du hard gentil, hein. C'est du hard rock quand même. King of Pop, si on n'a pas de la guitare, il y a ça aussi. Ça, tout le monde a échantillonné cette batterie-là. Hein. Parce qu'on a quand même deux mesures sans rien. C'est une vraie batterie, sauf que la caisse claire trigue un échantillon. Et là, on est à l'époque où la Lean Drum, je ne sais pas, vous connaissez, qui est la première boîte à rythme à échantillon, est sortie. Je vais aller, ce qui est pour moi le bout de l'histoire pour Michael Jackson, même si vous avez peut-être vu le film This Is It, un film sur les répétitions pour la tournée qui n'aura pas lieu, puisqu'il est mort avant la fin des répétitions d'ailleurs. Et on voit le perfectionnisme, le professionnalisme, et puis le travail sur le son, même sur scène, c'est invraisemblable. Donc tout est au cordeau, et on peut l'imaginer en studio. Quincy Jones, c'est coproduit par Michael Jackson, et Bruce Whedon enregistre et mixe. Amusez-vous avec votre ordinateur, essayez d'avoir un son aussi hargneux. C'est un bruit blanc rajouté. Est-ce qu'on entend le... C'est un bruit blanc, mais en fait, c'est une idée de Michael Jackson, qui fait assez souvent. Il y a eu de très bonnes critiques sur ce disque et sur celui qui a suivi. Et notamment une qui disait, je crois que c'est le New York Times. Ah oui, le dernier Michael Jackson, c'est fantastique, c'est une merveille. C'est dommage qu'il y ait des travaux tout du long. Alors, on a ça dans l'oreille. C'est toujours Motown, hein, mais c'est l'aboutissement... Là, ils sont arrivés, les auteurs, compositeurs et interprètes sont arrivés à faire de la pop funky. Hein, mais... Donc, revenir un petit peu en arrière avec des filles, Martha and the Vandellas. On va écouter Heatwave. Et là, on est donc 25 ans avant ce qu'on vient d'écouter. Faut le temps hein, de se réhabituer. On n'oserait pas mettre des réverbes comme ça aujourd'hui. Enfin, pas facile. Hein. Pour les amateurs, donc batteur de jazz, on lui dit « fais du rock », mais là, c'est un shuffle. Donc le paradoxe, c'est de jouer donc ternaire, un peu aplati. Et donc ils vont inventer une manière de jouer du shuffle qui est presque binaire. Très à plat. C'est pas tout-tac-tout-tout-tout-tout-tout. Un petit tour chez une autre chanteuse, Gladys Knight. Elles sont toujours vivantes, ces filles. Elles ont été souvent secrétaires. Et puis, elles allaient dans le studio de temps en temps, et puis elles chantaient avec les musiciens. Elles allumaient les musiciens les draguaient. Et puis, Berry Gordy ou les autres entendaient, mais tu chantes bien, tiens, allez, va chanter. Et voilà, Gladys Knight, secrétaire. Et voilà ce que ça donne. Là, on est en plein son, Motown, 65-66. Si les musiciens sont des musiciens de jazz, qui jouent du rock, les chanteurs, ils sortent de l'église directement. La soul, c'est du gospel. Entendez la saturation ? Alors, aujourd'hui, le studio est une sorte de musée. Vous pouvez aller le voir. Ils ont reconstitué à peu près la chose. L'ampli, bah, c'est un B15 pour les amateurs en PEG, est cloué, comme la batterie, est cloué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de batteur qui vient de l'extérieur, c'est le batteur maison, c'est la batterie maison, donc il faut la mettre là, et puis elle ne bouge pas, ça sonne bien là, allez hop. Et vous verrez les séries 200, c'est quand même très archaïque aussi, hein. Série 200 du magnéto en PEX, mais il a un son, hein. Enfin, je trouve même là, espèce de rondeur. La présence à 8 kilos, il n'y a pas d'aigu, hein, mais... oui, tous les labels, toutes les écuries de l'époque faisaient des tournées musicales en fait. Oui, ils avaient 5, 6, 7 artistes de leur label qui jouaient en même temps, qui jouaient les uns après les autres plutôt. Et c'était des revues. Ils appelaient ça. Alors là, vous avez la Motortown Review, la revue où on a des artistes, des originals qu'on ne va pas écouter, Bobby Taylor, Temptations, Gladys Knight qu'on vient d'écouter. Stevie Wonder, on va écouter un petit bout de quelque chose que Stevie Wonder a piqué à Johnny Hallyday.
Non.
Uptight, les culs. 15 ans. Il y a deux micros sur l'orchestre, plus le micro du chanteur. C'est Motown, mais on n'est pas dans le studio, c'est pas le son Motown. Là, il n'y a pas les arrangeurs, il n'y a pas Berry Gordy pour les surveiller, donc ça envoie, quoi. Bon, je pourrais terminer ma boucle comme ça, évoquer un arrangeur, compositeur maison chez Motown, qui a fait aussi une petite carrière de chanteur, c'est Smokey Robinson. Magnifique musicien, méconnu. 59. Le ressort. Quelques années plus tard, donc une chanson reprise par les Beatles, qui aimait bien Motown. Like you, 67, il y a du son. Hein. C'est pas la même réverb, hein. Bon, je fais des zigzags, mais je ne peux pas partir sans vous faire écouter Stevie Wonder. Donc ça, c'est le deuxième disque, c'est celui qu'il a vendu le plus en quantité. Et ça a été vraiment la révolution. Vous allez voir le son à nouveau, son de salon, proximité, in the face, avec beaucoup de microdynamique. Donc pas beaucoup de bandes passantes, ni de dynamique, mais très présent et avec un son, avec un grain bien particulier. En prise directe sur la console. Pareil, il a tout fait. Hein. Espèce de moelleux sur la basse et la basse qui est un synthétiseur et le Rhodes. Encore. Doublage de la voix. Il chante tellement juste et tellement en place. En ne parlant, en évoquant que les techniques, les technologies et les changements de méthode et de lieu, c'est un petit survol de l'histoire de Motown. Donc je vous invite à écouter aussi la musique, peut-être plus qu'on ne l'a fait, et puis dans sa continuité, même si c'est des morceaux de 3 minutes, c'est des petits univers. Et puis, et bien d'autres artistes. Je vous recommande le film qui est très émouvant aussi, In the Shadow of Motown, qui fait allusion à un morceau de Four Tops, In the Shadow of Love. Shadow of Motown, qui évoque donc la vie, l'œuvre et toutes les anecdotes des Funk Brothers, qui étaient les musiciens maison. Avec, donc on a une petite idée là, dans un club de jazz. Et puis, qu'est-ce que vous avez derrière? James Jamerson, le génie total, qui jouait avec un seul doigt pour les bassistes qui sont là avec des cordes filet plat montées à ça. Ça touche au génie à tout point de vue. Voilà, je vous remercie.
Merci pour eux. Je vous donne rendez-vous demain.
Les allers-retours et la bagarre Beatles-Beach Boys.
Autre radio, autre culture.